Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parlons d'Endo, le podcast qui vous parle d'endométriose. J'ai le plaisir de débuter cette saison 3 avec le soutien de la Fondation Urgo. Créée en 2010, la Fondation Urgo œuvre au quotidien en soutenant les professionnels de santé pour une meilleure prise en charge des patients et des patientes. L'un de ses piliers d'action, c'est la prise en charge de la douleur et elle soutient, dans ce contexte, la lutte contre l'endométriose. Elle apporte un soutien financier, d'une part, en soutenant la recherche médicale en partenariat avec l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, mais elle opère aussi dans des actions concrètes, en aidant à la sensibilisation des professionnels de santé pour un meilleur diagnostic de la maladie et une meilleure prise en charge. Merci donc à la Fondation Urgo de soutenir le podcast Parlons d'Endo, et par ce biais, la sensibilisation faite aux femmes pour mieux comprendre leur endométriose, les enjeux, et pour ensemble trouver des clés pour aller mieux. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre échange avec le docteur Amélie Lévesque, algologue, spécialiste de la douleur périnéale et pelvienne. Dans le premier épisode, et je vous invite à l'écouter si ça n'est pas fait, nous avons ensemble exploré ce qu'est la douleur, mais aussi les différents types de douleurs. C'est une subtilité qui nous permet d'appréhender notre propre douleur, de mieux la comprendre et donc de trouver les bonnes clés pour essayer de l'apaiser et de mieux vivre avec l'endométriose et ses symptômes. Dans cet épisode, nous aborderons donc les douleurs de règles, les douleurs d'endométriose, comment les explorer et comment les identifier. Et puis dans un deuxième temps, nous aborderons les différentes clés qui peuvent nous aider à nous désensibiliser à la douleur, qui peuvent nous aider à diminuer en tout cas notre douleur. Avant de poser ma première question au docteur Amélie Lévesque, je voudrais juste vous rappeler les deux informations qui ont été abordées dans le premier épisode et dont vous avez besoin pour bien comprendre nos échanges. D'une part, il y a plusieurs types de douleurs. Aujourd'hui, la science en sait plus. La douleur nociceptive, donc la douleur qui est liée par exemple à une lésion d'endométriose, qui fonctionne à peu près comme une alarme. Mais il y a aussi un autre type de douleur qui a été découvert il y a peu de temps. C'est la douleur par sensibilisation. On peut devenir hypersensible à la douleur, c'est-à-dire que notre système intérieur inhibiteur, qui nous empêche de ressentir des douleurs dans des moments du quotidien classique, comme être assis sur une chaise par exemple, ou marcher et avoir les pieds posés par terre, ce système qui nous empêche de ressentir de la douleur au toucher est défaillant. Et on va ressentir des douleurs alors qu'il n'y a pas vraiment de cause lésionnelle apparente. Il y a un dernier type de douleur que nous avons abordé dans l'épisode précédent, plus rare dans le cas des femmes endométriosiques, mais pas inexistant, les douleurs neuropathiques, lorsqu'un nerf est touché. Ce sont des sensations qui suivent le chemin du nerf, qui peuvent donner l'impression d'avoir un corps étranger dans le corps, qui nous gêne par exemple, qui peuvent brûler, picoter. Ce sont des douleurs lancinantes du quotidien, mais qui peuvent épuiser les femmes aussi. Il y a des idées reçues qui circulaient, et qui circulent encore un peu. Par exemple, c'est complètement normal d'avoir mal pendant ses règles, d'avoir mal pendant son ovulation, et des choses qui se sont transmises de génération en génération, de femme à femme notamment. Ça a fait du mal parce que ça a retardé les diagnostics, que cette maladie n'a pas été considérée, qu'il y a encore beaucoup d'errance. Mais je m'interroge quand même, docteur Amélie Lévesque, est-ce que c'est normal d'avoir un peu mal ?
Alors, c'est vraiment une excellente question. Vous disiez, ça a mis à mal les femmes qu'on dise que c'était normal d'avoir mal, parce qu'évidemment, on a sous-estimé, sous-diagnostiqué des situations pathologiques. Et à l'inverse, maintenant, de dire c'est pas normal d'avoir mal pendant les règles, je trouve que c'est un petit peu l'effet... un effet identique finalement, c'est-à-dire que maintenant les femmes sont perdues, est-ce que j'ai quelque chose, est-ce que c'est un peu normal d'avoir mal, et il y a de l'inquiétude, de l'anxiété, parfois des recherches de soins, des insatisfactions dans les échanges, parce que malgré tout il y a des médecins qui redisent quand même, bah oui, il y a quelques sentiments, enfin quelques perceptions désagréables pendant les règles, et finalement on est en train de retravailler avec plusieurs sociétés savantes et donc convaincantes Convergence PP, à redéfinir ces mots simples du quotidien, mais qui finalement n'étaient pas si clairs. Il faut considérer que la dysménorrhée, donc la douleur anormale de règles, c'est la douleur justement autour des règles qui va entraîner une démarche thérapeutique, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ressentez le besoin de mettre du chaud sur votre ventre quand vous avez vos règles, ou que vous allez essayer de prendre un antalgique ou un anti-inflammatoire, ben, il y a quelque chose qui est pas normal, vous voyez. Maintenant, voilà, dire qu'il n'y a pas du tout de douleur pendant les règles, c'est faux également, d'accord ? Il y a voilà, quelque chose qui est un peu désagréable, mais dans la normalité, en absence de pathologie, ça doit être une douleur qui est supportable, sans intervention complexe.
Et donc cette sensation désagréable, voire un peu douloureuse, normale, elle est liée à quoi dans le corps de toutes les femmes, sachant qu'il y en a qui sont plus sensibles à la douleur que d'autres, mais que c'est plutôt universel.
Donc effectivement, quand les règles font mal et que la femme recherche à se soulager de ces douleurs-là, on parle de dysménorrhée. Et les pistes, parce qu'on ne sait pas bien hein, exactement ce qui fait mal, mais la piste la plus probable, c'est qu'il y a une sécrétion normal hein, de l'utérus à ce moment-là d'un certain nombre de molécules qui sont pro-inflammatoires et qui vont entraîner des contractions de l'utérus. Et chez certaines femmes, ces contractions, elles vont être plus importantes ou en tout cas ressenties comme telles et ça va créer des douleurs. Donc c'est plutôt une histoire de contraction de l'utérus qui ferait mal pendant les règles.
C'est mais les fameuses prostaglandines.
Oui, les fameuses prostaglandines. Et, mais du coup, on sait qu'il y a des contractions de l'utérus au moment de l'ovulation aussi, et après un rapport, notamment au moment de l'orgasme aussi. Il y a plusieurs types de dyspareunie. Donc, pendant les rapports, c'est soit les dyspareunies orificielles à l'entrée du vagin, soit profondes dans le fond du vagin. Et dans ces cas-là, quand elles sont profondes, effectivement, elles peuvent être liées à la localisation de lésions d'endométriose dans les parois du vagin, hein, entre le vagin et le rectum, ou entre le vagin et la vessie, ou autour des ligaments, enfin dans les ligaments utérosacrés hein, qui sont dans le fond du vagin, globalement. Donc ça, effectivement, ça se vérifie avec des examens d'imagerie. Échographie, IRM, ça peut faire mal, mais parfois, finalement, les dyspareunies, on se rend compte en interrogeant la patiente qu'elles sont orificielles à l'entrée du vagin. Et là, le lien avec l'endométriose, il est plus complexe. Parfois, c'est un phénomène de sensibilisation, vous voyez, c'est parce que les capteurs de la zone, y compris donc de la vulve, du vestibule, sont plus sensibles. Parfois, ça n'a rien à voir, c'est les muscles qui sont autour du vagin qui vont être plus tendus, alors pour plein de raisons. Peut-être parfois en réaction à d'autres douleurs d'endométriose, d'accord ? Et qui du coup vont tendre la muqueuse du périnée et du coup, eh bien, la pénétration devient douloureuse. Et puis parfois, c'est des douleurs après les rapports. Et là, on est plus sur des problématiques de contraction de l'utérus et de l'utérus, mais qui sont anormalement douloureuses. Vous voyez, c'est pas censé être douloureux. Et donc, ça peut être aussi un reflet d'une sensibilisation pelvienne à la douleur.
D'accord. Donc il y a différents types de douleurs, même au sein d'une même catégorie qu'on appelle dyspareunie,
ah,
douleurs
oui.
sexuelles.
Ouais, ouais.
Et ça peut être important pour une femme de savoir quel type de douleur elle a pour pouvoir la prendre en charge.
Mais oui,
c'est toujours la grande question.
Mais bien sûr, parce que si effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est des lésions profondes, peut-être qu'une intervention chirurgicale est nécessaire, peut-être qu'un traitement hormonal est nécessaire, plutôt dans cet ordre-là d'ailleurs. Oui. Si c'est les muscles du périnée, c'est plutôt la kinésithérapie, la médecine manuelle, en sachant que les muscles du périnée peuvent être tendus dans un contexte psychologique de stress chronique, et là, c'est la psychothérapie qui va aider à se détendre, à relâcher les muscles du périnée. Et puis, bien sûr, si c'est plus des problèmes de peau, on peut avoir un lichen, on peut avoir du psoriasis de la vulve. Donc, tout ça, il faut l'examiner et il faut en déterminer les causes.
Merci, docteur Lévesque, pour ces précisions. C'est très clair. On a tendance à mettre toutes les douleurs gynéco dans la catégorie endométriose lorsqu'on est atteinte de cette maladie. Et parfois, c'est moins simple que ça, malheureusement. Sur le sujet de la dyspareunie, donc des douleurs sexuelles, je tiens aussi à parler en tant que femme qui en a souffert et qui en souffre encore un peu. Elles étaient, pour ma part, semble-t-il, multicausales. J'avais des douleurs liées à mes lésions d'endométriose, mais d'autres liées au stress, puisqu'il y a de l'appréhension. Quand on a mal à chaque fois, on se met à anticiper la douleur d'une certaine façon. Il y avait différentes actions à poser pour améliorer mon état général et pouvoir à nouveau avoir une vie sexuelle épanouie. Il y a l'opération qui a joué, opération chirurgicale, qui a permis d'enlever certaines lésions. Et puis il y a aussi l'alimentation, le changement d'alimentation, la réduction du stress qui m'ont aidé à diminuer l'inflammation générale. L'alimentation a aussi permis de diminuer la constipation, qui avait en fait un rapport direct avec mes dyspareunies, mes douleurs sexuelles. La thérapie,
que je suis depuis maintenant 3 ans, à la fréquence d'une fois par semaine, m'aide beaucoup et m'a beaucoup aidée à faire le tri, à dédramatiser, à prendre du recul, à poser les mots, à faire preuve de clarté aussi. Et puis, il y a aussi la façon, si je puis dire, la manière de faire l'amour, dans le sens où on ne fait pas forcément les mêmes positions. Je sais qu'il y en a qui me font plus mal que d'autres. On va aussi parler, aller plus lentement. Il y a une façon d'approcher le rapport au corps de l'autre, la sexualité qui est plus douce, plus créative aussi et qui se rapproche plus du coup de ma sensibilité. Et puis dans les périodes où j'ai la possibilité de prendre entre guillemets un traitement, c'est-à-dire une pilule contraceptive, une pilule progestative pour ma part qui coupe mes règles, ça m'aide aussi souvent à ressentir moins de douleur pendant les rapports sexuels. Voilà, c'était un petit aparté pour rebondir un petit peu sur les précisions médicales que vous nous avez données. Et pour aller plus loin sur le sujet de la douleur, on va parler des clés, des solutions qu'on peut mettre en place pour calmer les douleurs. Donc les douleurs nociceptives, donc les douleurs classiques en fait, enfin ce qu'on entend quand on dit douleur, la notion générale, les douleurs liées à des lésions d'endométriose, à un stimuli, ou alors les douleurs par sensibilisation, dont vous nous avez beaucoup parlé dans le premier épisode. Il y a beaucoup de femmes atteintes d'endo qui sont touchées par cette douleur par sensibilisation, hypersensibilisation de notre système général. Donc voilà, comment prendre en charge ces deux types de douleurs? Est-ce qu'il y a des clés que vous nous conseillez dans Parlons d'endo? Merci.
Alors déjà, la première des actions à mener, c'est de traiter la cause de la sensibilisation. Si on arrive à établir que cette sensibilisation cohabite, entre guillemets, avec une endométriose, il faut arriver à déterminer si l'endométriose est la cause de cette sensibilisation, si oui, la traiter. Traitement hormonal, traitement chirurgical, ça après, c'est l'affaire du gynécologue. Attention, parfois, cette sensibilisation, eh ben, elle n'est pas liée à l'endométriose. Elle va être liée à de l'arthrose articulaire au niveau du rachis, à des problématiques, je ne sais pas, d'autres rhumatismales ou neurologiques. Donc, c'est vraiment très important de faire cette première étape.
Pour vous partager mon expérience, j'ai pendant des années pensé que mes douleurs de jambes venaient de mes lésions d'endométriose. En réalité, elles proviennent de problèmes vasculaires. J'ai mis longtemps à comprendre et à chercher, puisque l'endométriose brouille les pistes. Et c'est le cas pour plein de choses, pour des carences en fer, où je mets ça dans le symptôme fatigue chronique, qui est un symptôme de l'endométriose, alors qu'en réalité, j'avais une carence en vitamines, en fer, en magnésium, etc., etc. Attention à ne pas tout confondre, et lorsqu'on identifie une anomalie, un dysfonctionnement dans notre corps, à approfondir, et pourquoi pas, à consulter un spécialiste de la douleur qui nous aidera à enquêter.
Et là, ça va consister une sorte de rééducation naturelle des contrôles inhibiteurs. C'est-à-dire qu'on veut redonner à la patiente sa pleine capacité d'inhiber sa douleur comme cela doit se passer en absence de sensibilisation. Et donc, renforcer ces contrôles inhibiteurs, bah, y a plusieurs modalités. Déjà, il faut bien comprendre que c'est multimodal. Il n'y a pas un médicament qui permet de résoudre le problème. Il y en a certains. On a quelques molécules, très peu. C'est des molécules qui agissent sur le système neurologique, soit des antidépresseurs, soit les antiépileptiques. Et dans les antidépresseurs, il n'y en a pas 15 000. Il y a la duloxétine, la valinfaxine et l'amitriptyline. Voilà, il y a 3 molécules. Le reste, ça a priori, hein, il y a une énorme revue qui est sortie en 2023 de la Cochrane qui dit, en gros, on est sûr pour la duloxétine que c'est efficace sur la douleur chronique. Et puis après, voilà, arrive la valinfaxine et l'amitriptyline. Les autres, on oublie. Dans les antiépileptiques, c'est la gabapentine. Voilà, pareil, il n'y a pas 15 000 molécules. Et ça, ça va diminuer le ressenti douloureux. Mais ça ne va pas traiter. Ce qui va traiter, c'est de retirer la cause des douleurs initiales et puis de renforcer les contrôles inhibiteurs. Alors, renforcer les contrôles inhibiteurs de façon durable, eh bien, si effectivement on n'envisage pas de prendre des médicaments toute sa vie, ce qui est quand même souhaitable vu que nos patientes sont souvent très jeunes, eh bien, c'est renforcer, donc du coup, par exemple, l'activité de récompense, les systèmes de récompense. Vous savez que dans l'organisme, on a une molécule, enfin des molécules comme les endorphines, d'accord, qui sont des molécules que l'on crée naturellement pour bloquer justement ces informations de douleur, enfin ces informations nociceptives qui voudraient arriver au cerveau, mais qui la plupart du temps n'arrivent pas. Alors comment on fait des endorphines? Ben, il y a plusieurs moyens. Le premier moyen que tout le monde connaît, c'est l'activité physique. Et c'est vraiment, à mon avis, avis, la chose qu'il faut retenir, c'est-à-dire qu'il faut bouger. Si vous voulez plus avoir mal, il faut vous remettre en mouvement petit à petit, mais vraiment avec un objectif de quelque chose de très régulier. L'OMS dit à peu près 2h30 par semaine d'activité physique modérée pour rester en bonne santé. Et pour les personnes qui ont des problématiques, c'est 5 heures.
Et je l'expérimente en ce moment. J'avais la sensation que mon corps était devenu un peu comme un oursin. Il me piquait un peu de partout, je sentais une faiblesse musculaire, des picotements dans les bras, les jambes. J'avais beaucoup de mal à rester assise, constamment mal dans la nuque, le dos. J'avais l'impression que mon ventre et ses crampes, ses coups de poignard irradiaient partout. C'était devenu une douleur constante à 2 ou 3 sur 10 qui pouvait monter plus haut. Et puis j'ai commencé la marche rapide, à l'origine pour sortir mon chien et pour me remettre en forme à l'occasion de vacances à la montagne qu'on allait faire où j'avais envie de skier un peu. Au bout de 20 jours de marche rapide, 40 minutes par jour, j'ai constaté que je n'avais plus d'inconfort quand j'étais assise. Et puis j'ai continué, moins de douleurs dans les jambes et puis mes crises d'endométriose pendant mes règles ont commencé à se calmer. Au lieu d'avoir 8 jours de douleurs non-stop ininterrompues, je suis passée à 4. Puis à 2, ce que j'avais à l'origine. Tout ça pour vous dire que bien sûr, chaque endométriose est différente, tout dépend de la place des lésions, pas forcément de leur taille, mais en tout cas de leur situation par rapport à nos nerfs, aux adhérences, mais qu'en effet, l'activité sportive, et à haute dose, puisque c'est environ une heure par jour pour moi, va changer les choses. Comme si notre système de sensibilisation, comme si mon système de sensibilisation avait décidé d'arrêter son alarme permanente. Et c'est un grand soulagement.
Donc vous voyez que la plupart du temps, nos patientes, elles ne font plus rien du tout. Parce qu'elles ont eu 2-3 mauvaises expériences, ou elles avaient plus mal après, évidemment ça fatigue, donc espèce de mélange des sensations. Instinctivement, les femmes ne bougent moins.
Clé essentielle et pas forcément naturelle. Quand on a mal, quand on est en pleine fatigue chronique, c'est vrai que c'est très très difficile de se motiver pour faire du sport. Et pourtant, les bienfaits sont plus grands que ce qu'on peut imaginer.
Après, bien sûr, il y a tout ce qui va être lors du toucher. Un massage, évidemment, ça crée des endorphines. Mais le simple fait de toucher une zone qui est douloureuse, on sait que tout ça, ça va arriver à la moelle au même endroit, le toucher et la douleur. Et en fait, le toucher, il va beaucoup plus vite. Et quand il arrive à la moelle, il fait sécréter des endorphines. C'est pour ça que quand on se cogne, on frotte. Ou quand on brûle, quand on se brûle, on souffle dessus. Parce que le toucher vient bloquer le passage de la douleur. Et le TENS, la technologie donc de l'électrostimulation transcutanée, utilise cette base physiologique qu'on a tous, mais qui doit être relancée chez les patients qui ont une sensibilisation centrale, parce que les choses se sont épuisées. D'accord ? Donc, on a dit donc les endorphines, ok. Et puis, bien sûr, il y a tout ce qui va être de traiter les facteurs de chronicisation, c'est-à-dire les facteurs d'entretien de cette sensibilisation. Donc, évidemment, il y a la cause initiale, mais il va y avoir aussi tous les aspects psychologiques. La dépression, l'anxiété, le stress post-traumatique, on en parlait, qui doivent absolument être pris en charge pour avancer dans cette problématique de sensibilisation. Et puis il y a la problématique des muscles qui vont la plupart du temps, vous savez comme dans le lumbago, se contracturer, réduire leur capacité de mobilisation en réaction à la douleur, sauf qu'un muscle qui ne bouge pas, c'est un muscle qui fait mal. Et donc là, il y a un cercle vicieux qui s'installe, donc il y a de la kinésithérapie très spécifique, on parle de rééducation périnéale, mais attention, ce n'est pas du tout ce que l'on fait après les accouchements, c'est tout l'inverse. Après les accouchements, on cherche à renforcer les muscles du périnée pour retonifier. Là, on cherche plutôt à détendre, en tout cas à redonner de la mobilité, et c'est pas du tout les mêmes approches, il faut des kinés qui soient bien, bien spécialisés. Dernière chose, dernier point, dans l'algologie et quand on veut traiter une sensibilisation, on doit absolument prendre en charge les aspects socio-professionnels de la patiente. C'est pas possible de dire à quelqu'un, vous allez faire du sport tous les jours, prendre tel et tel médicament, une demi-heure de TENS le matin, le soir, et de continuer à lui dire d'aller travailler à temps plein avec une heure de route le matin et le soir dans des conditions parfois inconfortables qui majorent leur douleur. On doit les accompagner sur une adaptation de leur poste, que ce soit qualitatif ou quantitatif. D'accord ? Quantitatif, en donnant parfois le temps de la prise en charge, une invalidité partielle qui va compenser en fait une journée qui ne serait pas travaillée mais qui serait destinée aux soins. Ou des adaptations qualitatives où on va organiser du télétravail, par exemple.
Et ben merci pour tout ça. C'est riche, mais c'est très concret, en fait. C'est concret, alors qu'on a un peu l'impression que la douleur est une notion très abstraite, mais on voit qu'aujourd'hui, ça avance. Est-ce qu'il y a une nécessité, vous pensez, de former aujourd'hui les médecins, d'organiser un peu le système différemment pour que les patients puissent être pris en charge correctement?
Alors effectivement, on manque cruellement de personnel soignant, mais bon, ça c'est pas une nouveauté dans tous les domaines, mais y compris dans ce domaine de la douleur chronique. Moi, par exemple, j'ai plus d'1 an de délai d'attente. C'est pas que ça me fait plaisir, c'est pas que je joue aux cartes entre les coups. Hein. Je veux dire, je travaille tous les jours à temps plein. Mais il y a trop de demandes par rapport aux médecins qui sont en capacité d'y répondre. Et surtout, c'est des consultations, vous l'aurez bien compris, qui prennent beaucoup de temps. On peut pas gérer une telle problématique en 20 minutes. Il faut à peu près 45 minutes, parfois 1 heure, parfois 1 heure 30. Donc effectivement, on a besoin de plus de médecins. Et oui, il faudrait en forme un peu plus, mais ça veut dire qu'il faut communiquer sur cette spécialité. Il y a beaucoup de jeunes étudiants qui ne connaissent pas cette discipline ou qui ont peut-être une vision un peu péjorative de médecins qui doivent s'occuper de patients avec des problèmes énormes que personne ne comprend. Or, effectivement, comme vous l'avez dit, nos connaissances ont bien progressé. On arrive maintenant à bien structurer nos raisonnements, à faire des diagnostics pertinents. On soulage plein de gens, enfin, heureusement d'ailleurs. Il y a beaucoup de patients et de patientes qui vont mieux grâce à ces prises en charge. Donc, moi, j'appelle les jeunes médecins, effectivement, à venir voir ce qu'on fait et à s'y intéresser, parce que c'est très gratifiant comme activité. Quand on arrive à soulager des patientes qui se voyaient vraiment dans une impasse, aussi bien sur le plan personnel, professionnel, familial, et que le champ des possibles s'ouvre à nouveau, c'est très gratifiant d'y avoir participer. Donc il y a ça. Je pense que ce qui pourrait aussi aider notre profession, c'est de revaloriser les actes en fait médicaux. Comme ce n'est pas une spécialité universitaire, nous n'avons pas de cotation de spécialiste pour la plupart. Et si on est issu de la médecine générale, on peut coter qu'une consultation de médecine générale, alors que de 25 minutes ou 20 minutes, même en médecine générale, nous, on a pris 3/4 d'heure, voire 1 heure. Donc ça, c'est un vrai problème. Je pense que s'il y avait une cotation dédiée à l'évaluation de la douleur chronique, peut-être que des collègues gynécologues, pour peu qu'ils se soient formés, se mettraient peut-être plus à faire ce type de consultation. Et dans l'endométriose, ce serait parfaitement pertinent, par exemple.
Et je rebondis sur les traitements appropriés, parce que je ne connaissais pas, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Vous avez donc cet outil, le TENS, qui est quand même une belle innovation en termes de santé, puisque c'est un des rares outils aujourd'hui qui peut influer sur ce processus, on va dire, de reconnexion à son corps et de désensibilisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire rapidement quelques mots? Est-ce que ça se prescrit? Comment ça marche?
Oui, alors, en fait, c'est pas une innovation au sens propre du terme. Ça fait quand même bien 15-20 ans qu'on peut prescrire ça. C'est pas très bien connu parce que initialement la prescription a été restreinte aux médecins algologues. Alors, comme je viens de vous dire qu'on n'était pas nombreux, effectivement, il y a un moment donné ou moins par mois, ça marche pas beaucoup. Mais c'est vraiment un dispositif qui est intéressant parce que, comme vous l'avez dit, c'est pas médicamenteux, donc il y a pas ou peu d'effets secondaires. Hein. Le seul effet secondaire qu'on va pouvoir observer parfois, c'est des allergies de contact aux électrodes. On n'y peut pas grand-chose. Ça reproduit un phénomène physiologique que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que quand on stimule le toucher d'une zone qui est douloureuse, on bloque le passage de la douleur. Donc ça, c'est super intéressant. Et puis surtout, et c'est là où on a eu un petit peu d'innovation dans les années qui ont précédé, c'est que, avec les technologies qui se miniaturisent, on a réussi à faire des dispositifs qui sont vraiment faciles à utiliser au quotidien. Au départ, on avait des sortes de Game Boy avec des fils et des électrodes qui se mettaient sur la peau. Alors, de part et d'autre de la douleur, vous avez bien compris. Hein.
Pas très pratique, du coup, pour se déplacer.
Non, pas très pratique. Et puis, avec le temps, certains laboratoires ont réussi à développer des matériels médicaux Vraiment, où c'est des patchs avec directement le générateur d'électricité sur le patch. Et là, dans ce cas-là, bah, on peut, dans le cas de l'endométriose et des douleurs pelviennes, par exemple, le camoufler sous un pantalon et l'utiliser toute la journée. Donc, c'est bien plus pratique.
Ça s'intègre totalement dans le quotidien à ce moment-là.
Oui, oui, tout à fait. Ça peut être un traitement qu'on utilise sur plusieurs heures de la journée. Ouais.
Un immense merci, docteur Lévesque, pour toutes ces informations, cette vulgarisation et de rendre accessible l'information aux femmes qui s'intéressent au sujet ou qui sont plongées dedans. Merci également à la Fondation Urgo de soutenir cet épisode et de m'aider à informer les femmes sur le sujet de l'endométriose. Je vous retrouve très bientôt pour un épisode qui parlera des clés du quotidien avec des témoignages de femmes, des clés pour gérer ces douleurs d'endométriose. Et d'ici là, n'oubliez pas, parlons d'endo, un peu n'importe comment, à l'image de la maladie, mais parlons d'endo. Merci et à très vite.